midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et AVS, ça veut dire à votre santé. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Il aurait pu être radiologue, cardiologue et pneumologue, mais il a choisi d'être médecin généraliste. C'est avec nous aujourd'hui le docteur Walid Mekedem. Comment ça va?
Ça va, Philippe, et vous?
Ça va bien, ça fait plaisir de vous voir, Walid.
Pareil pour moi, toujours un plaisir de venir ici.
Il y a eu une période un petit peu de... qui a été dure. Mais bon, ça fait plaisir de vous voir. C'est vrai que vous nous avez beaucoup manqué pendant le mois du Ramadan. Et vous avez beaucoup manqué aux auditeurs de Beurre FM.
Moi, j'étais fort occupé.
Voilà, bien. Mais bon, on en reparlera et c'est pas le sujet de l'émission. Walid Mekedem, vous êtes médecin généraliste, installé à Paris maintenant.
Exactement.
Voilà. Alors, quand on dit installé, c'est installé en vrai. Hein.
Oui, installé Paris. Paris, cœur de Paris. Paris, ouais. Du côté de République.
Parce qu'on vous avait connu dans un cabinet.
J'ai changé. Hein. Ça, ce sera le sujet d'une vidéo, si vous voulez, Philippe. Pourquoi j'ai changé? Pourquoi je suis passé du centre de santé, que les Parisiens connaissent bien, à l'installation à mon compte en cabinet libéral? Ah, ça, c'est tout un sujet. Hein. Ça peut intéresser. Je ne sais pas si ça peut intéresser les auditeurs, mais en tout cas, le switch, pourquoi il s'est fait, comment il s'est fait. Ça a été une grosse période, pas très simple, mais je pourrai en parler un jour.
Voilà. Donc maintenant, vous avez pignon sur rue, pas très loin de la gare du Nord.
Ouais, voilà, Paris.
Du boulevard Magenta, donc pour République, voilà, c'est central, comme on dit.
Exactement.
Pas facile de se garer, mais c'est bien desservi par les métros.
Oh, est-ce que vous prenez la voiture, Philippe?
Ben, n'importe quoi.
Ah, moi non plus, je prends pas la voiture.
Moi, je prends le vélo.
Voilà, exactement. Vélo, métro, bus, à pied. Voilà. C'est mieux.
Mais beaucoup se déplacent en voiture encore, hein, donc, ouais.
Je comprends pas, hein. Par exemple, Paris de boulevard Magenta.
Dans ce quartier-là, c'est compliqué.
C'est mort.
C'est impossible.
Impossible.
Non, ça,
impossible.
C'est impossible. C'est fini. Il faut prendre une journée.
Carrément, en plus, il y a des travaux partout, ça bouchonne, c'est. Non, c'est compliqué.
On parlait de la spécialité que vous n'avez pas choisie, radiologue, cardiologue, pneumologue. Est-ce que vous regrettez parfois d'avoir choisi d'être médecin généraliste?
Franchement, c'est une bonne question. Parfois, je me pose la question, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? À vrai dire, j'ai pas de réponse. C'est vrai qu'il y a des spécialités qui m'attirent sur certains aspects, mais quand je me dis, est-ce que j'aurais pu faire ça sur le long terme? Je pense que non.
Radiologue?
Non, franchement, je regrette pas trop mon choix, sachant qu'aujourd'hui, je me rends compte, plus le temps passe, qu'en fait, ça me laisse vachement de souplesse pour adapter mon exercice. La médecine générale, c'est vraiment bien. S'il y a des auditeurs qui nous écoutent, qui ont des enfants qui veulent faire médecine, vous pouvez leur dire de faire médecin généraliste et vous verrez qu'en fait, avec le temps, ils pourront changer, adapter, se focaliser plus sur certains aspects, avoir des exercices, que ce soit à leur compte ou que ce soit à l'hôpital ou que ce soit dans des centres spécialisés. Il y a vraiment pas mal de possibilités quand on est médecin généraliste.
Mais il n'y a pas une forme de solitude dans l'exercice de la médecine généraliste?
En fait, c'est dans l'exercice de la médecine tout court. Hein. C'est-à-dire, quand vous êtes médecin, et si on va parler des médecins qui sont à leur compte, vous tenez la boutique, entre guillemets, vous gérez tout. Mmh. Et même s'il y a des collègues, entre guillemets, pas très loin, toute la journée, vous les voyez pas. Hein. Vous voyez les patients uniquement, la charge mentale qui s'associe justement au travail, le soir, la gestion de votre cabinet, des trucs qui vont pas, de la comptabilité, de tout ça. Donc, c'est un exercice, oui, qui est pas simple. C'est pour ça qu'il faut trouver l'équilibre avec la vie à côté, la vie de famille, les loisirs. On n'est pas des robots.
Bien, et vous partagez du contenu médical sur votre chaîne YouTube, bientôt 150 000 abonnés.
Exactement, Walid. Donc j'invite les gens à s'abonner à la chaîne si le contenu médical les intéresse.
Voilà, souvent très simple, c'est simple, hein.
C'est ouais, vraiment non, on est
tout
pas
niveau,
très...
voilà, c'est très intéressant.
Pas très compliqué.
Bien, nous allons évoquer, Walid, aujourd'hui des motifs de consultation fréquents, avec des pathologies qu'on croyait oubliées, mais qui sont vraiment super fréquentes. La première, c'est l'arthrose.
L'arthrose. Je pense pas que c'est oublié, hein.
Non, l'arthrose, non. Mais je me rappelle quand je vous avais proposé de faire un sujet sur l'arthrose il y a longtemps, vous n'étiez pas super convaincu, hein.
Je me souviens même plus de la proposition.
Non, vraiment pas.
Et il a une super bonne mémoire, par contre.
Non. Et il a fallu qu'on ait une émission qui cartonne sur l'arthrose. Je sais pas, la fille, elle a fait 5 ou 600 000. On me dit, ah oui, finalement, c'est des sujets qui marchent, ça. Et vous l'avez fait après, c'était soigner l'arthrose naturellement.
Ouais. Même de mon côté, ça a bien marché, l'arthrose. Ouais.
Et c'est surprenant parce que c'est des sujets, on a l'impression que c'est pas grave, que ça concerne personne et ça cartonne.
Ça concerne du monde, hein, et c'est invalidant et surtout ça dure dans le temps.
L'arthrose en consultation, ça présente
c'est beaucoup, hein.
Ouais.
Arrivé à un certain âge, l'arthrose, quand même, ça concerne du monde. Et puis, c'est très polymorphe, hein. C'est-à-dire que l'arthrose, déjà, ça peut concerner toutes les articulations, finalement. Donc, il y en a qui vont avoir mal à l'épaule, il y en a, ça va être la hanche, il y en a, ça va être le genou. Et après.
Les cervicales.
Les cervicales, bien sûr. Et ça va être à des degrés différents. C'est-à-dire, il y a ceux qui vont être peu gênés, ceux chez qui ça va être très ponctuel, occasionnel, là, je fais une poussée d'arthrose. Et il y en a pour qui c'est la douleur chronique, la douleur de fond qui les handicape au quotidien.
Alors, on peut confondre parfois avec l'arthrite.
Exactement.
C'est l'arthrite. Même, ouais.
En fait, c'est un mot générique, arthrite. Ça veut dire arthrite, c'est une inflammation au niveau de l'articulation. Donc, elle peut être liée, en fait, à l'arthrose. Mais quand on parle d'arthrite dans le jargon, on parle plutôt des maladies inflammatoires des articulations. On aura peut-être l'occasion d'en parler aujourd'hui, mais c'est des maladies à part entière.
L'arthrose, c'est ce qu'on appelle une maladie chronique.
Exactement.
C'est-à-dire qu'on n'en guérit pas.
On ne guérit pas de l'arthrose. Donc, s'il y a des gens qui cherchent la solution miracle pour guérir de l'arthrose, ça n'existe pas. L'arthrose, bon, voilà, c'est, si on veut parler de manière très simple, c'est finalement une usure de l'articulation qui arrive pour plein de facteurs, hein. C'est-à-dire, c'est un ensemble de facteurs. Il y a beaucoup de choses qui interviennent. La famille, la génétique, le poids, le travail qu'on fait.
Mais est-ce qu'on sait pourquoi nos articulations s'usent, en fait?
Comme je l'ai dit, c'est multifactoriel. C'est-à-dire, il n'y a pas une règle. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent favoriser. Par exemple, si vous êtes obèse, l'arthrose au niveau des hanches et du genou, voilà, vous allez être plus sujet peut-être à en faire. Pareil pour l'hérédité. Si vous avez dans votre famille toutes vos tantes et vos oncles qui sont atteints d'arthrose, bon, il y a des chances pour que ça vous touche. Mais après, du coup, c'est un ensemble. Comme j'ai dit, il y a l'hérédité, il y a le poids, il y a le mode de vie, il y a l'emploi que vous faites. Si vous avez un emploi, voilà, de charge, etc., de mouvements répétés, tout ça, ça peut jouer. Et donc, finalement, c'est un ensemble. Mais là où les choses vont différer, c'est qu'en fait, on peut avoir de l'arthrose et pas être gêné. Donc, c'est ça le grand problème d'arthrose. Il y a des gens qui ont de l'arthrose, et déjà, il y a des gens qui ont un petit peu d'arthrose et qui sont très gênés. Et à l'inverse, il y a des gens, si on fait une radio, on se dit « Ah bah, l'articulation n'est pas en très bon état, et pourtant, zéro douleur. »
Ouais. Donc, ça veut dire que c'est pas l'étendue de la lésion qui fait la douleur.
Si je devais dire une phrase médicale, mais je vais la traduire, c'est « En arthrose, il n'y a pas de corrélation radio-clinique. » C'est-à-dire, il n'y a pas de lien entre l'image et les symptômes. On peut avoir une articulation très abîmée à l'image et finalement quelqu'un qui n'est pas gêné. Donc l'arthrose, la douleur liée à l'arthrose, c'est vraiment lié à d'autres facteurs que simplement ce qu'on voit directement.
Quelle est la façon de poser le diagnostic? Est-ce que c'est forcément la radio?
Oui, c'est-à-dire qu'après, l'arthrose, ça reste quand même un diagnostic clinique dans le sens où la personne va se présenter, elle va dire j'ai mal de telle manière, à tel endroit, on élimine quand même les autres possibilités, mais oui, il faut confirmer, on confirme, hein, on peut pas dire comme ça, vous avez de l'arthrose, j'en suis sûr à 4000%, on fait une radio, c'est très simple, la radio confirme le diagnostic.
Est-ce que c'est les articulations, hein, parce que ça peut toucher pas mal d'articulations, notamment les doigts, les genoux, est-ce qu'il y a quelque chose d'apparent? Est-ce qu'on voit quelque chose?
Sur la radio?
Non, justement pas sur la radio. Est-ce que par exemple, en montrant vos mains, on pourrait voir une déformation?
Exactement.
Ou quelque chose?
Très bonne question. Donc, c'est pas sur toutes les articulations. Mais par exemple, là, vous avez parlé des mains.
Oui.
Et c'est vrai que l'arthrose au niveau des doigts, quand elle est évoluée, ça se voit et on a le bout des doigts qui sont déformés, qui partent un petit peu...
Tordus.
Voilà, tordus. Oui. Mais à pas confondre avec d'autres maladies déformantes. Il y a par exemple la polyarthrite rhumatoïde, c'est une maladie inflammatoire, donc c'est vraiment une maladie qui peut toucher même les organes et tout, qui va déformer avec le temps les mains, s'il n'y a pas justement de traitement, mais en fait ça va déformer tout, hein, que ce soit ici, on va avoir les doigts qui partent comme ça sur les côtés.
Alors il faut expliquer parce qu'on fait de la radio,
ouais,
Walid. Alors la radio,
en gros la jonction entre la main et les doigts, ça peut être déformé à ce niveau-là. Pareil pour les doigts au milieu des doigts, ça peut être déformé. Alors que l'arthrose, c'est vraiment le dernier morceau souvent qui part en cacahuète.
C'est le bout du doigt qui vraiment va faire
Souvent l'arthrose des doigts, c'est le bout des doigts. Ouais. Et si on a une autre partie du doigt de la main qui est déformée, souvent c'est pas de l'arthrose. Voilà. Après, pour les grosses articulations, si vous me dites, est-ce que ça se voit? Pour un genou.
Le genou, par exemple. Est-ce qu'on a un genou qui est enflé, qui est rouge?
Alors, bonne question. De manière chronique, non. c'est-à-dire quelqu'un qui a de l'arthrose, voilà, on va pas se voir, mais quelqu'un qui fait une poussée d'arthrose, c'est-à-dire il a son arthrose et d'un seul coup c'est la tempête pour X raison, ça se réveille, ça fait très mal, et bien là il va faire une poussée d'arthrose, bah là ça va devenir chaud, ça va gonfler, ça va être douloureux, il peut y avoir du liquide à l'intérieur, donc on va toucher un peu le genou, on va toucher la rotule, ça va s'enfoncer comme un glaçon dans l'eau, donc là on se dit il y a une poussée inflammatoire. Après la question c'est de savoir est-ce que c'est à cause de l'arthrose, est-ce que c'est pas autre chose.
Ouais. D'accord, là après on élimine, c'est ça ?
Bah après voilà, il faut faire, il faut regarder le contexte. Est-ce qu'il fait de la fièvre ? Ah bah s'il fait de la fièvre, potentiellement c'est pas de l'arthrose, ça peut être une arthrite septique, une infection. Voilà, est-ce que du coup, il faut faire la radio. Donc ça, si à la radio on voit qu'effectivement le genou est bien abîmé, qu'il y a de l'arthrose, on se dit c'est compatible. Mais il faut éliminer d'autres maladies comme la goutte, la chondrocalcinose, comme j'ai dit de l'arthrite septique. En fait, il y a plein de choses qui peuvent donner un genou chaud, gonflé et douloureux.
Qu'est-ce qui est efficace ? Qu'est-ce qui fonctionne comme traitement pour prendre en charge la douleur de l'arthrose ?
Alors, bah, ce qui marche le mieux, mais il faut le manier avec précaution, c'est les anti-inflammatoires. Il n'y a pas 4000 traitements ultra efficaces. L'arthrose, quand ça évolue par poussée, que ça fait très mal, il faut s'imaginer que c'est le feu, en fait, dans l'articulation. Bah, le feu, il faut l'éteindre. Donc, si on devait parler d'un médicament, en général, c'est les anti-inflammatoires. Mais les anti-inflammatoires, il faut les prendre de manière courte. Voilà, pas prolongé parce que c'est pas bon pour les reins, pour l'estomac, ça peut jouer sur la tension, ça dépend un petit peu de vos traitements que vous prenez, est-ce que vous pouvez prendre des anti-inflammatoires. Donc c'est compliqué, mais s'il n'y a pas de contre-indication et qu'on les prend, c'est plutôt efficace. Parfois, quand on peut pas mettre d'anti-inflammatoires classiques comme ibuprofène, kétoprofène, naproxène, etc., on peut mettre un peu plus costaud, c'est une autre famille d'anti-inflammatoires, les gens connaissent sûrement, c'est les corticoïdes. Là, ça tape fort, mais... Voilà, c'est pas pour tout le monde. C'est quand vraiment on est un petit peu coincé, qu'on peut pas mettre d'anti-inflammatoire.
Parce que là, on parle d'une maladie chronique, donc.
C'est vrai, il y a une nuance. Ouais. Là, j'ai parlé de la crise. Sur le traitement de fond, bonne question. Comment on traite de manière durable l'arthrose ? Bah là, c'est sans médicaments, en fait. C'est-à-dire que l'arthrose, soulager les douleurs, bah, ça va être, hein, comme j'ai dit, la perte de poids, si on est un peu trop costaud. Et puis, bon, il y a certaines personnes aussi qui disent que le poids en lui-même ça génère une inflammation dans le corps qui peut donner aussi des douleurs d'arthrose, même dans des articulations qui ne sont pas importantes, c'est-à-dire l'épaule et tout ça. Donc, bon, le poids, il faut jouer dessus, mais il faut faire beaucoup d'exercices physiques, il faut renforcer bah, ses membres, ses
articulations. Alors, paradoxalement, quand on a des douleurs d'arthrose, quand on a des douleurs au genou, quand on a des douleurs à la hanche, quand on a des... on n'a pas du tout envie de se bouger. Hein.
C'est le serpent qui se mord là que c'est vrai. Mais en fait, après, si on ne bouge plus du tout, bah, ça va être pire. Hein. C'est-à-dire, on va avoir de plus en plus mal, on va prendre de plus en plus de poids, on va avoir aussi... Ouh là là, je pourrais dire que l'arthrose, ça peut être un facteur de risque de maladie plus grave. Parce qu'en fait, avec l'arthrose, la douleur, on se limite, on ne fait plus d'efforts. On fait plus d'efforts, on va augmenter le risque de maladies cardiovasculaires, de diabète, d'hypertension, etc. Donc non, il faut se dire, oui, j'ai un peu mal. Il faut que je trouve une activité qui va... pas être douloureuse, et tout doucement je débloque certains niveaux, et au fur et à mesure tac 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 tac, et après je finis à faire un Ironman ou du crossfit de manière très intense, pourquoi pas, ça peut être un objectif.
Bien, on sait ce que vous faites après, une fois que vous avez fini vos consultations. Docteur Walid Mekedem, vous êtes notre invité jusqu'à 13h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. Midi 13h, AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Avec le docteur Walid Mekedem qui est avec nous, médecin généraliste à Paris. Vous le consultez sa chaîne YouTube avec beaucoup de conseils. Bientôt 150 000 abonnés et ça monte, Walid. On parle de motifs de consultation fréquents avec vous aujourd'hui. On est en train de parler d'arthrose et de la façon de la prendre en charge. Le sport, encore une fois, ça reste...
Top. Le sport, un des meilleurs médicaments, meilleurs traitements, que ce soit pour l'arthrose ou pour plein d'autres problèmes de santé. Alors oui, des fois, on va dire, oui, les docteurs, j'ai mal, je peux pas trop bouger. Mais non, il faut débloquer. J'ai dit, il faut débloquer étape par étape, trouver une activité douce qui vous correspond, faire de l'activité, y prendre plaisir et tout doucement que ça devienne une habitude et que vous continuez justement à vous renforcer musculairement.
Quels sont les sports conseillés en cas d'arthrose ? Alors, c'est du genou, on va peut-être pas faire du footing.
Souvent, on dit le sport conseillé. Des fois, il y a des clichés comme la natation, etc. Mais en fait, le meilleur sport conseillé, ce serait celui qui vous fait plaisir, en fait. Il faut trouver un sport où vous dites, c'est pas une corvée d'y aller. Et puis, je suis pas en souffrance non plus. Donc, si vous arrivez à un sport qui justement n'est pas un calvaire, qui vous fait pas trop mal et avec lequel vous arrivez à avoir une routine, une habitude, allez-y. Et tout doucement, avec le temps, vous changerez, vous switcherez, mais il faut faire du sport, il faut faire de l'activité.
Est-ce qu'il vous arrive en tant que médecin généraliste de prescrire du sport ?
Bonne question. On peut prescrire de l'activité physique adaptée, mais c'est assez récent.
Et c'est 2-3 ans hein, de mémoire, on peut prescrire. Les médecins peuvent prescrire de l'activité.
Prescrire, ouais. Mais à condition qu'il y ait un endroit où on puisse aller avec sa prescription et dire voilà, j'ai une prescription d'activité physique adaptée.
Donc alors, que
ça, c'est pas très répandu.
Un centre pris en charge, agréé.
Et ça, c'est pas très répandu. J'y connais pas grand chose, c'est vrai, parce qu'en fait, où ça ? Où il y a des centres comme ça ? Moi, personnellement, je ne sais pas. Donc, je vais essayer de me renseigner sur le sujet.
Il y a quelques centres qui sont pris en charge par les mutuelles, mais c'est assez cher, en fait. Mais il faut avoir une bonne mutuelle en plus. Hein,
Donc, bon, certes, ça existe, c'est bien. Mais je pense que si on n'a pas d'autres gros problèmes de santé, à part son arthrose, on peut se dire bon, allez, j'y vais tranquille, je fais du sport comme j'en ai envie. Et on voit.
Alors, ce qui se développe de plus en plus, ce sont les traitements de l'arthrose par injection.
Ouais.
Alors,
Ça date, hein.
Oui, ça date, mais en tout cas avec les réseaux sociaux, on en parle de plus en plus. Mmh. Bon, déjà, est-ce que ce sont est-ce qu'il y a des résultats avec ces injections ?
Alors, oui, mais ça, comme déjà, faut retenir que ça guérit pas. C'est temporaire l'efficacité. Donc, c'est une efficacité. Enfin, le but recherché, c'est de soulager la douleur. C'est pas de guérir l'arthrose.
Alors, il y a plusieurs types d'injections, d'ailleurs.
Deux grands types d'injections. Alors, on va avoir les injections de corticoïdes, de produits corticoïdes. Pas souvent, par exemple, dans le genou, mais ça peut être l'épaule, etc. Ça va permettre souvent de calmer un genou très douloureux en phase inflammatoire. Donc, si par exemple, vraiment, vous êtes sur une période très douloureuse, un peu en poussée, bon, le corticoïde injecté va permettre de calmer, de soulager cette inflammation et va avoir un effet qui va durer quelques mois. Et on peut répéter de temps en temps l'injection, mais pas plus que ouais, ça reste limité, quoi. Par exemple, pour un genou, on fera rarement plus de 2 injections dans l'année. Après, il y a un autre produit qu'on peut injecter, c'est de l'acide hyaluronique.
Alors, donc on connaît ce mot-là, parce que c'est utilisé en médecine de la beauté.
Exactement, mais du coup, en fait, là, c'est juste un lubrifiant donc qu'on va injecter au niveau du genou, par exemple, qui va avoir une efficacité en général qui dure plus longtemps que le corticoïde. Mais c'est-à-dire que lui, il est injecté, l'acide hyaluronique, on va dire, en phase froide. C'est-à-dire, vous savez que vous avez de l'arthrose, que vous avez des douleurs un petit peu chroniques, invalidantes, mais ça va, vous n'êtes pas non plus vraiment en poussée. Et on dit, bon, allez, on va tester, on injecte l'acide hyaluronique. Et si c'est efficace, en général, ça va être efficace sur une durée de plusieurs mois. Ça peut aller jusqu'à 9 mois, par exemple. Et puis voilà, et on voit. Mais après, c'est très personne dépendant. Il y a des personnes qui vont se faire injecter, qui vont dire, moi, ça me fait rien du tout. Il y en a, ils vont dire, c'est très efficace. Donc voilà, après, entre corticoïdes et acide hyaluronique, bah, ça dépend vraiment du cas. Voilà,
après, je ne sais pas si il y a d'autres injections, les injections de plasma riches en plaquettes, les fameux PRP. Est-ce qu'on a du recul sur ces injections ou pas ?
Bah, les injections de PRP pour le genou, les articulations comme ça, c'est plutôt en médecine du sport, par exemple, quand on va avoir des lésions, des blessures. Donc ça va permettre plus de soulager dans ce genre d'indication. Mais pour l'arthrose, vraiment, on reste sur soit corticoïdes, soit acide hyaluronique, sachant que voilà, ils n'ont pas la même durée d'efficacité, mais ils ne sont pas prescrits dans la même indication, vraiment. Ça dépend de votre clinique, c'est-à-dire de vos symptômes.
À quel moment on conseille l'opération ?
Bah, à partir du handicap, on va dire. Si vous considérez que votre arthrose est un handicap au quotidien, que les traitements médicamenteux ne sont pas efficaces, que les traitements non médicamenteux ne sont pas efficaces, et que vraiment c'est un calvaire, eh ben c'est là que se pose la question de la chirurgie. Et comme j'ai dit, ça dépend pas de la radio. Hein, vous pouvez avoir un genou pas trop abîmé à la radio, vous pouvez vous faire opérer. Si vraiment... Voilà, vous êtes tout le temps poussé, vous n'arrivez plus à travailler, vous surconsommez des anti-inflammatoires. Bah non, au bout d'un moment, il faut trouver une solution.
Et là, à ce moment-là, c'est on remplace l'articulation par une prothèse,
c'est ça ? Exactement, on remplace l'articulation abîmée. Alors le genou, c'est un petit peu... En fait, il y a plusieurs articulations dans le genou. Il y a l'articulation, on dit fémoro-tibiale, en gros avec l'os de la cuisse et celui du tibia. Mais il y a aussi la rotule. Donc des fois, il y a des personnes, l'arthrose, elle est fémoro-tibiale. Patellaire, c'est-à-dire entre l'os de la jambe et la rotule. Au moment où ça glisse comme ça, entre les deux, ça frotte. Donc, voilà, la prothèse, ça dépend vraiment de l'articulation abîmée. Mmh. Mais ce qu'il faut retenir, sans entrer trop dans les détails, c'est que l'articulation abîmée, si ça devient un handicap, hop, on enlève, on switch, on met une prothèse.
On va parler d'une pathologie que je pensais complètement oubliée, et pas du tout, je pensais que ça vient du passé, c'est la goutte.
Ah bah ça vient.
Moi j'avais l'impression que c'était voilà.
Non, c'est très
début
fréquent.
Du 20e siècle et qu'après c'était terminé, que c'était lié à des habitudes de vie de gens qui mangeaient beaucoup de charcuterie par exemple, une alimentation très grasse et qui picolait un peu.
Il y a une actu sur la goutte d'ailleurs, il y a une actu, il y a un endroit du monde où il y a un nombre improbable de gouttes, de personnes qui ont la goutte. Est-ce que vous savez c'est où ?
Un indice.
C'est très loin d'ici.
D'accord, donc ça doit être Nouvelle-Zélande.
Non, mais on s'en rapproche, quoi. C'est un peu plus haut, un peu plus à droite.
D'accord. Il fait chaud là-bas ?
Ouais, il fait chaud.
Tahiti ?
Oui, exactement, Tahiti. Donc c'est un des endroits où il y a le plus de personnes qui ont la goutte, genre une personne sur cinq. Et du coup, il y a un chercheur lillois qui s'est arrêté sur le sujet. Et pour comprendre un petit peu, ils ont remarqué qu'il y avait vraiment une très grosse composante génétique dans le fait de développer la goutte. Donc ça casse un petit peu pas mal de mythes, enfin de mythes. C'est-à-dire qu'on disait vraiment la goutte c'est purement l'alimentation. Ben, en fait là on comprend, on va voir avec les études futures, mais vraiment qu'il y a quand même un terrain génétique très fort.
D'accord. Bon, alors la goutte pour tout le monde, qu'est-ce que c'est ?
Ben, la goutte pour tout le monde, qu'est-ce que c'est ? C'est un rhumatisme inflammatoire. Donc là on est sur, on n'est pas sur l'usure de l'articulation, on est vraiment sur une maladie de l'articulation. À quoi cette maladie elle est due ? Eh ben, elle est due au dépôt de cristaux dans les articulations. D'où viennent-ils ? Ce sont des cristaux d'acide urique. Et là, on remonte encore un petit peu plus haut. Bah, d'où vient cet acide urique ? Il vient de la dégradation de ce qu'on appelle des purines, qui sont en fait des composantes de certains aliments. Et on va dire les grandes familles. Est-ce que je les cite tout de suite ?
Oui, non, mais c'est intéressant, parce que là, on va pas vous faire une conférence là-dessus, là. Vous avez quand même annoncé quelques mots, il faut souffler,
donc. En gros, la viande, les abats, c'est très riche en purines. Donc, viande, abats, crustacés, les fruits de la mer. Ça, c'est vraiment les grandes familles, d'aliments riches en purines. On a aussi la bière. Il faut savoir que la bière, avec ou sans alcool, c'est vraiment le fait, c'est la bière en elle-même qui est très riche en purines.
De toute façon, la bière sans alcool, c'est de la bière qui est, qu'on a désalcoolisée, hein.
Voilà.
Bon.
Du coup, la bière, donc ça, c'est les grandes familles d'aliments vraiment qui, une fois dégradés, vous amènent à avoir un taux d'acide urique potentiellement élevé. Mais il faut savoir qu'il y a des aliments qui font augmenter l'acide urique, mais pas du fait de leur dégradation et tout. C'est des mécanismes chimiques un peu compliqués à expliquer. Ça interagit un peu avec le corps. Et par exemple, il y a quelque chose que les gens ne savent pas forcément, c'est les aliments riches en fructose. Eh oui, le fructose. Le fructose, ça...
Alors, vous parlez du fructose des fruits ou du fructose qu'on rajoute dans certaines préparations, dans certaines boissons, dans certains sodas?
Bah, ça n'a pas de différence, hein. Fructose, hein. Donc, vous consommez beaucoup de fructose. Donc, le soda, effectivement, ça va favoriser chez une personne l'augmentation de son acide urique, par exemple. Parce qu'en gros, ça interagit avec le foie, etc. Donc, les aliments riches en fructose, les sodas, tout ça, il y en a un peu partout, hein. C'est fructose, c'est du sucre, hein. D'accord? Et l'alcool aussi. L'alcool, hein, ça a un peu le même système que le fructose. Mais il faut retenir ça. Il faut retenir que ce n'est pas que les histoires de viande, de charcuterie, d'abats, de crustacés, de bière. C'est aussi l'alimentation très riche en fructose.
Alors, on parle de crise de goutte. Quels sont les organes qui sont touchés ?
Alors, bah, du coup, ça peut être toutes les articulations, mais la grande reine, hein, la grande star de la goutte, c'est l'articulation du gros orteil. Donc, qui devient très rouge, très gonflé, tout chaud, ça brûle, ça fait extrêmement mal, vous posez le pied par terre, vous hurlez. Donc ça, c'est la crise de goutte classique. Donc c'est vrai que j'avais pas parlé trop des symptômes, mais c'est ça, hein, c'est vraiment douleur lancinante au niveau de l'articulation, gonflement, rougeur, chaleur. Ça peut toucher le gros orteil, mais en fait, ça peut toucher le genou, ça peut toucher la cheville, ça peut toucher les doigts. Et est-ce que je parle des manifestations extra-articulaires ? Ouais, j'enchaîne direct. Et bien, du coup, par exemple, quelque chose de classique chez les personnes qui font de la goutte, c'est la peau. À force d'avoir des dépôts, ces dépôts d'acide urique dans les articulations, on peut les avoir aussi ailleurs. Et souvent sous la peau. Et ça donne ce qu'on appelle un tophus goutteux ou des tophies goutteux. Vous en avez peut-être déjà vu. Bon, on est à la radio, je peux pas trop donner de photos.
Alors, tophus, hein, ça s'écrit pas comme vous imaginez, hein. C'est un peu compliqué.
Ouais, c'est T-O-P-H. US. Voilà, c'est pas si compliqué que ça.
Bah oui.
Eh bien, ça, c'est des gros cailloux.
Non, si vous voulez googler, hein, c'est pour ça que je dis ça. Tophus.
Ah oui,
goûteux,
tophus. Ouais,
tophus.
Parce
que si vous voulez voir à quoi ça ressemble, googlez, vous allez voir.
Ouais, Google Images, tophus, T-O-P-H-U-S. Et c'est des genres de petits cailloux blancs que vous allez voir de manière translucide sous la peau, souvent au niveau des articulations des doigts, souvent au niveau du pavillon de l'oreille aussi. Ça se voit très bien au niveau du pavillon de l'oreille. Et il y a des personnes qui ont des toffies goûteux qui sont waouh. Vous voyez ça, vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce caillou, ce rocher. Et une fois, je peux raconter une anecdote.
Mais ne demandez pas, Walid. Vous étiez ici chez vous à une époque, donc peut-être reprendrez-vous votre place.
Alors du coup, j'avais, y avait un patient une fois à l'hôpital, je me souviens qu'il y avait des toffies goûteux partout, énormes, et il y en avait au niveau des coudes, donc vraiment l'articulation du coude. Et comme c'était une personne qui était pour X raisons, voilà, vraiment dans un état compliqué à l'hôpital, alitée, elle avait commencé à faire des escarres. Donc les escarres, c'est quand ça se creuse au niveau de la peau, sur les points d'appui. Et du coup, ça s'était creusé au niveau du tophus. Et du coup, j'ai pu voir sous la peau, le tophus est vraiment... c'est d'acré, c'est de la pierre. C'est-à-dire vraiment, il y a votre corps, il y a une roche qui se forme, que ce soit dans vos articulations.
Mais en vrai, ça ressemble à une roche.
Ouais,
c'est ça
j'ai touché, c'était, je me suis dit, je vais toucher. Et c'est de l'acré. Vraiment, je fais, mais c'est incroyable quand même. C'est incroyable.
Comment on mesure son acide urique? Le moyen de savoir.
Prise de sang, taux d'acide urique.
Ouais, c'est prise de
taux d'acide urique.
Ouais.
Après, il faut savoir que c'est comme l'arthrose avec l'histoire de la radio. C'est pas forcément corrélé au fait de faire de la goutte. Hein. Vous pouvez avoir un taux d'acide urique élevé et ne jamais développer de goutte. Donc, la goutte, faut se dire, c'est pas un chiffre, hein, sur la prise de sang. La goutte, c'est des symptômes. C'est vraiment si vous faites une crise de goutte. Si vous avez vraiment des articulations très douloureuses. Je parlais de la peau, juste, je dirais un dernier mot. On peut faire aussi des calculs au niveau des reins. Un petit caillou au niveau des reins à cause de l'acide urique.
Ça fait mal, ça.
Ça fait mal.
Bien, le docteur Walid Mekedem est notre invité jusqu'à 13h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. Midi 13h. AVS, présenté par Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et nous parlons de motifs de consultation fréquents ce matin avec le docteur Walid Mekedem, médecin généraliste à Paris. Si vous cherchez un doc, hein, vous allez chez le doc.
Il y avait...
Non conventionné.
Oui, on va pas s'attarder sur
ça. Non, je le dis parce qu'au moins vous savez où vous allez. Hein.
Ouais, exactement.
Après sinon, parce que sinon en commentaire on va se faire.
Oui, bien sûr. De toute façon.
Voilà.
Ouais.
Mais voilà, non conventionné. Mais ça c'était un choix de votre part. Hein. Depuis plusieurs années, vous parliez de cette option dans votre
plusieurs mois. Bah, on a parlé en début là d'interview. Je vous ai dit comment s'est fait le switch. Enfin, que vous pouvez en parler pas mal, mais c'est vrai que au bout d'un moment. Quand on est à son compte, il faut savoir bien gérer, faire les bons choix, ceux qui vous, voilà, qui sont le moins contraignants pour vous aussi. Hein. Paris, c'est pas simple hein, quand vous êtes entrepreneur. Parce que là, je dis entrepreneur, oui, un médecin qui a son cabinet, c'est un entrepreneur. Hein. Voilà, il a ses charges et tout ça. Il faut que ça fonctionne, quoi.
On fera une mission sur le sujet parce que ça vaut une émission. On parlait de la goutte avant la pause. Comment est-ce qu'on la prend en charge la goutte? Qu'est-ce qui fonctionne
pour... Alors, qu'est-ce qui fonctionne bien quand on est en crise? C'est un médicament qui s'appelle la colchicine.
Alors, on explique aux gens ce que c'est.
Oui, c'est une sorte d'anti-inflammatoire qui va permettre vraiment de calmer la grosse crise douloureuse. Mais il faut savoir que colchicine VS anti-inflammatoire classique type naproxène, ibuprofène, ça se discute. Hein. Vraiment, c'est du cas par cas. La colchicine, quand même, il y a des médecins qui vont pas être trop chauds pour la prescrire parce que voilà, ça donne pas mal de troubles digestifs, ça peut donner de la diarrhée, ça tape quand même sur les reins. Il faut faire le bon choix en fait en fonction de la personne que vous avez en face de vous. Mais dans tous les cas, il faut donner quelque chose, hein, que ce soit colchicine ou anti-inflammatoire. Pour calmer. Après, évidemment, vous pouvez mettre sur l'articulation douloureuse de la glace, quelque chose qui fait un petit peu du bien. Et après, faut se dire comment on fait pour pas que ça revienne. Comment ça on fait? Donc, effectivement, il y a les mesures alimentaires, mais il y a aussi des traitements. Traitements de fond. Si voilà, vous avez un terrain, vous faites souvent la crise de goutte, que vous avez un taux d'acide urique très élevé, vous faites la prise de sang, vous faites ouh là là, c'est 3-4 fois la normale là, donc je suis à risque d'en refaire. On met un traitement de fond. Donc soit ce qu'on appelle l'allopurinol, soit ce qu'on appelle du febuxostat. En fait, c'est un comprimé tous les jours pour faire diminuer l'acide urique.
D'accord. Et là, sur combien de temps?
C'est du long terme en fait. Hein. C'est-à-dire à réévaluer. Moi, je dirais que les médicaments, faut réévaluer régulièrement. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on peut prendre ça plusieurs années, comme on peut le prendre quelques mois, ça se discute. Il y a pas vraiment de règle. Il y en a qui vous diront c'est du long terme à vie. Moi, je suis pas trop pour ça. Je suis pour se dire que certes, à un moment donné, on en a besoin. On peut le prendre même pendant longtemps et au bout d'un moment, on se repose la question de savoir est-ce qu'on en a toujours besoin.
On va parler des hernies.
Oui.
Ça, c'est un mot que tout le monde connaît à peu près, mais personne ne sait vraiment expliquer en quoi ça consiste, les hernies.
D'ailleurs, vous êtes un grand lecteur. On dit des hernies ou des hernies?
Des hernies.
Des hernies.
On dit des hernies, ouais.
Ok, des hernies.
Non, parce qu'on ne fait pas la liaison.
Ok, d'accord. Des hernies. Non, mais parce que je dis des hernies. Non, je dis des hernies.
Ouais.
Ok, des hernies.
Moi, bah après,
dites en commentaire, on dit des hernies ou des hernies.
Dans l'élan, on peut dire des hernies. Okay. Bon, on va parler des hernies. Il y en a de plusieurs types, hein, d'ailleurs, les hernies.
Ouais, bah, sachant qu'il y a les hernies articulaires, il y a les hernies qui n'ont rien à voir avec les articulations. Si vous voulez, on en touchera un mot, mais parce qu'on peut dire j'ai une hernie inguinale. Et une hernie inguinale, ça n'a rien à voir avec les articulations.
Alors, qu'est-ce que c'est, justement? J'ai découvert ça, tiens, d'ailleurs.
Ah
ouais? Je connaissais pas.
C'est ultra fréquent, l'hernie inguinale. Bah, en fait,
c'est quoi? C'est au niveau de l'estomac?
Non, c'est vraiment en bas du ventre, en bas sur la droite ou la gauche. À la jonction, on va dire, de certains muscles, on peut avoir une déficience musculaire. C'est-à-dire que les muscles, c'est comme un millefeuille. On a des superpositions, on a des chevauchements. Et pour peu qu'à un endroit, c'est pas bien fermé, qu'il y a un petit orifice, un petit trou, bah, vous avez ce qu'il y a dans le ventre, le sac, il ressort, ça fait une petite boule. D'accord? Et des fois, la boule, on la voit pas parce que ça rentre, ça sort. Mais on sent une pesanteur, ça fait mal. Et du coup, bah, ça, il faut fermer, hein, le trou, hein. Faut pas laisser une hernie.
Béante.
Bah ouais, parce que le risque, c'est qu'un jour, ça s'étrangle. C'est-à-dire qu'en fait, le contenu sort par le trou, mais c'est plus réductible. Et là, si ça se.
On peut pas revenir en arrière.
C'est une urgence. Ah, c'est une urgence, parce que sinon, ça va nécroser. Donc, des fois, vous voyez des hernies inguinales impressionnantes. Je me souviens d'un monsieur, vraiment, vous regardez son ventre, il y a une boule. Donc, vous dites, oh, c'est quoi ça? Mais en fait, il dit, non, mais vous inquiétez pas, regardez. Il fait ça avec ses mains, il jongle un petit peu avec, et il remet la boule à l'intérieur du ventre. Donc, hernie inguinale, très grosse, mais non compliquée. Et du coup, c'était prévu qu'il se fasse opérer pour refermer tout ça. Mais le risque, c'est qu'un jour, la boule, elle est dehors, et mince, je peux plus la rentrer. Et là, bah, le sang ne circule plus, c'est la catastrophe, hein. C'est une urgence.
Alors, il y a les hernies, discales, hiatales.
Ah bah non, hiatale, ça n'a rien à voir aussi.
C'est des hernies pourtant.
Oui, bah en fait, hernie, je n'ai pas l'étymologie du mot, mais ça veut dire, j'imagine, une orifice qui laisse passer quelque chose.
Et ouais.
L'hernie hiatale, c'est au niveau de l'estomac. C'est-à-dire, vous avez le diaphragme, donc le muscle en dessous des poumons, qui sert un petit peu de toit à tout ce qu'il y a dans le ventre. Bah, il y a forcément un trou pour que le manger va de la bouche jusqu'en bas. Mais ce trou, des fois, il laisse passer l'estomac qui est censé rester en bas. Et donc, l'hernie hiatale, ça peut être par exemple facteur de risque de reflux, beaucoup de reflux. Hein, donc, mais rien à voir avec les articulations.
D'accord, reflux
gastrique, ouais, l'acidité.
RGO. Donc, alors vous voulez parler de quelle hernie?
Les hernies articulaires. Donc, les hernies, c'est principalement au niveau de la colonne vertébrale. Donc, la colonne vertébrale, c'est une superposition de cubes. Hein, enfin, pas vraiment cubes, mais des vertèbres. Et forcément, c'est pas logique pour tout le monde, mais entre ces vertèbres, on a des petits coussins, des petits disques qui permettent, voilà, d'amortir, d'être mobile, de bien bouger, etc. Ce disque, au milieu, il y a un genre de noyau. Et des fois, pouf, ce noyau, il est un petit peu expulsé et ça fait une béance. Donc, le disque n'est pas bien lisse. Ça fait une béance, ça sort comme ça. Et puis, ça peut appuyer, comprimer sur les structures adjacentes comme les nerfs. Mmh. Et là, ça fait très mal.
Mmh. Alors, les hernies peuvent être les causes de pas mal de douleurs.
Bien sûr.
Normalement, les sciatiques.
Bien sûr, mais j'aimerais nuancer parce que là, j'ai peut-être dit une bêtise. C'est pas que j'ai dit une bêtise, c'est que c'est vrai, une hernie, ça peut faire très mal. Mais une hernie n'est pas égale à douleur. En fait, si on faisait des IRM à tout le monde, là, je sais pas combien de personnes, on en retrouverait un gros pourcentage, en tout cas, avec des hernies. Les gens diraient non, j'ai pas de soucis. Donc oui, non, la hernie n'est pas forcément symptomatique, mais c'est vrai qu'on peut avoir des douleurs. Voilà, au niveau des jambes, des douleurs de sciatique qui sont liées justement à une hernie discale. Donc, faut voir quoi. Faut voir les symptômes et faut faire ensuite un examen et voir un petit peu.
Elles peuvent être cause également de fameuses douleurs neuropathiques.
Oui, parce qu'en fait, ça comprime un nerf et du coup, après, ça peut vous donner des douleurs qui ne sont pas du type « Ah, je me suis cogné, j'ai mal ». Ça peut donner des douleurs à type de brûlure, de fourmillement, de sensation de décharge électrique. Donc, voilà, des douleurs. Et si elles se chronicisent, oui, ça peut être un enfer. Hein.
Quand faut-il se faire opérer d'une hernie?
Oula, alors la hernie, on ne se fait pas opérer tout de suite, hein, parce qu'en fait, ça reste des grosses opérations quand même. Hein. C'est de la neurochirurgie ou de la chirurgie, on dit traumatologique, mais axée sur le rachis. Donc, on peut avoir les opérations sur le rachis lombaire, en bas du dos. Souvent, c'est quand même le truc assez classique. Voilà, j'ai une hernie discale en bas du dos. Mais des fois, c'est au niveau du cou. Ça donne des névralgies cervico-brachiales, c'est-à-dire des douleurs du cou liées à vraiment une sciatique, entre guillemets, du bras. Donc, mon bras et tout, j'ai des décharges, des fourmis, je me réveille, j'ai le bras endormi, tout ça. Et là, du coup, on voit qu'il y a des hernies au niveau du cervical, mais vous faire opérer du rachis cervical pour décompresser des racines nerveuses, bon, c'est ça se fait, hein, ça se fait. Mais avant de le faire, on se dit bon, il y a peut-être d'autres choses à tester. Donc, bah, on reste sur les loisirs classiques, l'activité, la kinésithérapie, certains traitements, des traitements parfois pour les douleurs neuropathiques, si vraiment on a des douleurs neuropathiques. Et en fonction du résultat, de l'impact, eh ben, on opère ou pas. Hein. C'est vraiment l'opération, c'est le dernier recours pour la hernie.
Je voudrais qu'on termine avec quelque chose, c'est la coiffe des rotateurs, notamment la tendinite de la coiffe des rotateurs. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que la coiffe des rotateurs
Bah, en gros, Walid, il faut comprendre que si on enlève le bras de quelqu'un et qu'on regarde au niveau de l'épaule, on a plein d'insertions, bah, finalement, de tous les muscles qui vont découler pour le bras. Hein. C'est-à-dire que bon, le bras, on n'a pas juste le biceps, le triceps, hein, on a plein de muscles, les muscles de l'épaule, etc. Et donc, il y a plein d'insertions tendineuses au niveau de l'épaule, parce que ça part sur le bras, mais ça part aussi sur, vous voyez, le côté du dos. Hein. Donc, les muscles qui sont sur le côté du dos, ils s'insèrent aussi à ce niveau-là. Et du coup, bah, comme c'est vraiment un endroit de carrefour où il y a plein de mouvements différents, vous mettez le bras devant, levé, sur le côté, sur la gauche, sur la droite, en arrière, bah, en fonction justement de votre activité, des mouvements que vous faites, bah, vous pouvez avoir une lésion à un de ces endroits, qu'on appelle justement la coiffe des rotateurs, donc l'endroit où tous ces tendons s'insèrent. Et en fonction du geste qui est douloureux, on dit « Ah, c'est ce tendon ». Abîmé. Oui. Bon, après, il faut confirmer par l'imagerie, mais d'accord. Des fois, avec un seul geste, on dit « Ah, je sais c'est où ».
Alors, qu'est-ce qui vous a fait avoir envie de parler de ça ? Est-ce que ça veut dire que c'est fréquent et que c'est quelque chose que les gens ne soupçonnent pas ?
Moi, je vais en parler parce que c'est ultra fréquent, en fait. Hein. C'est-à-dire, si ça ne vous arrive pas, hein, vous n'en avez pas conscience ou connaissance, mais c'est quelque chose de très, très fréquent. Donc, les tendinites, tendinopathies au niveau de l'épaule, avec le grand classique, c'est le tendon qu'on appelle le supra-épineux. Donc, c'est celui qui vous permet de lever le bras comme ça. Et quand il y a des personnes qui ont des tendinites à ce niveau ou des ruptures, vous leur dites « Levez le bras ». Chez certains, c'est possible, mais si je mets une contrainte, ah, ça fait mal. Et chez les personnes qui ont une rupture du tendon, du supra-épineux, bah non, je peux pas lever le bras, en fait. Hein. Vous faites par rapport au bras d'à côté, c'est pas possible. Donc ça, c'est très classique, c'est très fréquent, c'est souvent lié à l'activité professionnelle.
Est-ce que depuis le télétravail, il y a de plus en plus de... ou pas ?
Non.
On dit que les gens sont mal posés chez eux pour travailler.
Oh, je pense qu'ils
se mettent n'importe où. Enfin voilà, ils ont une position qui est complètement, qui est n'importe quoi et que ça développe pas mal de.
Bah, ça développerait plus des douleurs au dos, hein, des douleurs lombaires. Mais la douleur, la coiffe des rotateurs, la tendinite, c'est vraiment le travailleur, voilà, la femme de ménage, les boueurs, voilà, celui qui travaille dans le bâtiment. C'est vraiment les travaux physiques, manuels, avec des gestes répétitifs.
Comment vous prenez en charge ?
Alors, sur nos stades de tendinite, simplement, principal traitement, c'est quand même la kiné, hein, d'accord ? Avec, bon, on peut mettre des médicaments s'il y a des grosses crises douloureuses, mais le principal traitement, ça va être la kiné, la rééducation. Dans certaines indications, on peut faire aussi des infiltrations de produits à base de corticoïdes pour soulager justement la tempête qu'il y a au sein de l'articulation. Mais maintenant, si sur l'imagerie, on voit qu'il y a une rupture, voilà, une lésion vraiment du tendon, et que voilà, vous êtes une personne plutôt jeune, et quand je dis jeune, c'est pas 25 ans, quand je dis jeune, c'est 60 ans, vous êtes bien portant, vous n'êtes pas encore à la retraite, vous travaillez, vous avez besoin de vos bras, et vous avez une rupture du tendon, bon, bah, c'est la chirurgie. Voilà, et arrivé à un certain stade, c'est vrai, on se dit, bon, le bénéfice-risque entre s'opérer de l'épaule et l'utilisation du bras, bon, on va compenser plutôt par la kiné, etc. C'est pas forcément utile, la chirurgie. Mais en gros, voilà, une personne qui travaille et qui est en pleine force, voilà, et elle a besoin de ses bras, donc on répare, quoi. Quand il y a un bobo, on répare.
Allez, le docteur Walid Mekedem est sur Beurre FM. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Vous verrez la vidéo sur la chaîne YouTube qui arrivera très très prochainement. J'en suis sûr, Doc, à Paris, hein, maintenant, le docteur Mekedem. Donc voilà, si vous voulez consulter le Doc, c'est, voilà, vous pouvez maintenant, dans son propre cabinet, un peu cossu quand même. Hein, cossu, il y a du parquet. Non, cossu.
Ouais, il y a du parquet. Ouais. Écoutez, je veux accueillir les gens dans un endroit confortable.
Il y a de la moulure, il y a du parquet, voilà.
C'est Paris, hein, aussi. Hein. Franchement, Philippe, il faut qu'on fasse une vidéo sur justement les centres de santé, les cabinets libéraux. Pourquoi ça, pourquoi ci, pourquoi mon choix. Franchement, je pense que je vais en faire une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne, mais j'attends le bon moment parce que ça va faire du bruit. Je ne vais pas me faire des amis.
Bien. Bah non, bah si vous n'avez plus d'amis, c'est mort, hein, docteur.
Je vais pas me faire des amis. Mais à un moment, il faut lâcher les chevaux, il faut dire les vérités.
Bien, je viendrai le dire sur Beurre FM. Olib Mekedem, passez une très belle journée. Santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.